au chapitre 11 et nous allons commencer à partir du verset 1er. Deuxième livre des rois, chapitre 11. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans, caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des Kérétiens et des coureurs et les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et leur fit jurer dans la maison de l'Éternel et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de Sûr et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos 2 autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour de sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi et l'oignirent et frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur l'estrade, selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration, conspiration !» Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée. « Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Matan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les Kérétiens et les coureurs et tout le peuple du pays, et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs, et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Amen. Je voudrais demander au Seigneur qu'il nous aide pendant cette méditation. Seigneur, tu nous as rassemblés dans ce lieu et nous sommes venus avec un cœur bien disposé parce que nous savons que nous avons toujours besoin de toi. Et ta présence est notre bien suprême. Nous te prions ce soir que tu nous aides à comprendre ce que tu nous révèles au travers de ta parole. Et que nous puissions aussi, Seigneur, agir en conséquence dans notre vie. Notre Dieu, nous voulons te dire ce soir encore une fois que nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier, et nous te demandons la grâce de pouvoir te mettre toujours à la première place dans notre cœur et dans notre vie. Ô Seigneur, viens-nous en aide maintenant par ton esprit et glorifie-toi au milieu de nous, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons nous entretenir au sujet de cette femme qui est mentionnée dans le texte que nous venons de lire et qui s'appelle Athalie. Faisons un peu le rappel de qui est cette femme. Elle est la fille d'un couple infernal. Le couple s'appelle Akab et Jézabel. Et nous savons tous que ce couple a été un instrument entre les mains du diable pour conduire le peuple de Dieu dans une voie d'idolâtrie, dans le péché, dans la révolte et la rébellion contre Dieu. Et Athalie, qui est la fille donc de Jézabel, n'a rien à envier à sa mère. Elle possède le même caractère, un caractère, je dirais, orgueilleux, égoïste, idolâtre, et elle ne vise qu'à une seule chose, exercer un pouvoir exécrable sur le peuple de Dieu. Il se trouve qu'elle était aussi la mère d'Akazia, lui-même étant un roi en Juda. Mais Akazia, qui ne marchait pas dans les voies de l'Éternel, a fait l'objet d'un jugement de la part de Dieu, et l'instrument utilisé pour ce jugement, c'est Jéhu, dont vous tous vous avez entendu parler, vous avez lu le récit dans la Bible, et Jéhu était animé d'un zèle excessif, d'un zèle charnel. Mais cependant, il avait une volonté qui était celle d'accomplir ce que Dieu avait décidé de faire. L'idolâtrie étant en abomination aux yeux de l'Éternel, il fallait que s'exerce un jugement en Israël. Et Jéhu a été choisi comme l'instrument par lequel ce jugement a pu s'exercer. Et bien sûr, le jugement a commencé par atteindre Akazia, le fils d'Athalie, qui est mort, conséquence de cette action qui était menée par Jéhu. Et Athalie, quand elle a vu que son fils était mort, alors elle a eu cette idée terrible. En cela, nous pouvons reconnaître la cruauté qui était aussi le partage de sa mère Jézabel. et elle a décidé d'en finir avec tous les descendants royaux. Mais il se trouve que les descendants royaux, eh bien, c'était les membres de sa famille, c'était ses propres petits-enfants. Et cette grammaire indigne, parce que je ne vois pas comment on pourrait dire autrement, elle a décidé de faire mourir tous ses petits-enfants pour pouvoir être là, occupant le trône sur le Juda. Et pendant un certain temps, elle a régné à Juda. Mais, Dieu veillait quand même. Et il se trouve qu'elle n'a pas pu éliminer tous ses descendants royaux. Et il y en a un qui a été mis à l'abri parce que sa tante, c'est-à-dire la sœur même d'Akasia, eh bien, a pu le cacher. Il était un bébé. Elle l'a placé dans la maison de l'Éternel et dans un endroit très précis où, justement, le souverain sacrificateur pouvait veiller sur lui, le préserver, le garder. Et il a d'ailleurs gardé sous son regard pour le préserver d'Athalie, de sa méchanceté et des sujets qui la suivaient également. Et il se trouve que, justement, cet homme-là a manifesté une telle bonté, mais en même temps, je dirais, il était animé d'un tel discernement qu'il a pu parler à certaines personnes qui étaient au service dans le temple, dans la maison de l'Éternel, et ce Jéhojada a été un exemple. Parce qu'il a dit à chacun de ceux qui avaient un service à accomplir dans le temple, dans la maison de l'Éternel, à tous les gardes, il leur a dit, veillez, et surtout surveillez bien, que personne ne pénètre là, et ne puisse surtout pas atteindre Joas, qui était ce petit garçon que l'Éternel avait préservé par l'intermédiaire de cette action de Josheba et de Jéhojada. Alors, le nom de ce petit garçon, c'est Joas. Et j'ai oublié de vous préciser, son nom est magnifique, parce qu'il signifie « l'Éternel a donné ». Et cela nous rappelle un autre don que Dieu a fait. Nous connaissons tous, parce que nous pensons que ce verset est au centre même de l'Évangile, Jean 3,16, qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est le cadeau de Dieu à l'humanité. Il est le don de l'Éternel à l'humanité pour que cette humanité soit sauvée, mise à l'abri de la puissance du péché, du mal, de la corruption. Et c'est ce qu'il a fait avec chacun d'entre nous, puisqu'il nous a sauvés, délivrés du pouvoir de péché. Et comme nous avons reçu cette lumière, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et maintenant, je voudrais dire ce Jéhojada. Il est pour nous un exemple, dans le sens que nous aussi, nous avons, dans ce temps très difficile, dans cette ère particulière que nous connaissons, où la méchanceté des hommes s'est accrue, où l'idolâtrie des hommes est grande, où il y a peu de personnes, somme toute, qui, dans ce monde, ont le cœur orienté vers l'Éternel, où il y a peu de personnes qui suivent l'Évangile, le connaissent et marchent en harmonie avec ce que Dieu enseigne. Nous avons aussi une responsabilité. Comme Joas a été caché dans le temple, nous avons un Sauveur glorieux qui est encore maintenant dans le ciel, qui un jour doit apparaître. Et nous savons tous, parce que la parole de Dieu nous l'enseigne, nous le révèle, et nous attendons cela. Non seulement le retour de Jésus qui va permettre que nous allions le rejoindre dans les nuées et ensuite être avec lui dans le ciel, mais nous savons qu'un jour Jésus viendra aussi sur cette terre et il rendra justice, il établira son royaume. Mais pour le moment, il est dans le ciel, il est dans la gloire, présent en chacun d'entre nous par l'action puissante du Saint-Esprit. Mais nous avons quelque chose à faire. De la même manière que Jéhojada disait « Veillez, que personne n'atteigne cet enfant », eh bien, nous avons, nous, à faire quelque chose. Souffrirons-nous en ces temps fâcheux et difficiles que l'on puisse parler mal de celui qui est notre libérateur, de celui qui est notre sauveur? N'avons-nous pas, en tant que témoins, une posture à avoir ferme, de telle sorte que les gens puissent bien reconnaître et savoir que même si nous sommes dans le monde, nous ne faisons pas partie de ce monde, mais que nous sommes attachés à celui qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Et le monde doit pouvoir reconnaître que nous n'avons pas honte de lui. Vous me suivez bien, frères et sœurs? Dans ce monde et au sein de cette génération, eh bien, il faut des hommes et des femmes qui soient des témoins authentiques et qui veillent pour garder précieusement la parole de Dieu dans leur cœur, mais aussi avoir ce témoignage que nous défendons la cause de Jésus. Il n'a pas besoin de nous, il pourrait se passer de nous, mais il nous a établis dans ce monde comme des témoins. Et nous devons avoir, par le secours et l'aide du Saint-Esprit, la possibilité d'agir ainsi et de veiller sur la vérité pour qu'elle ne soit pas attaquée. Et plus que jamais, on se rend compte que dans ce monde, eh bien, la vérité de Dieu est attaquée. Et c'est la raison pour laquelle, plusieurs fois, vous m'avez entendu dire, en rappelant ce qui est écrit dans la Bible, hélas, dans ce monde, ce qui est bien pour nous est considéré comme mal, et ce qui est mal pour nous est considéré comme bien. Et quand nous voulons défendre la vérité, alors pourquoi ou pour qui passons-nous? Sinon que, c'est étonnant cela, des obscurantistes. C'est curieux cela. Nous avons été éclairés par la lumière du monde et l'on considère que l'on est dans l'obscurantisme. Et ceux qui, comme je l'ai rappelé il n'y a pas bien longtemps, font partie de cette génération qui a suivi le siècle des Lumières et qui prétendent avoir la lumière, vivent dans les ténèbres, dans la confusion, dans le péché, dans l'iniquité. Et nous nous rendons compte que ce qui règne dans ce monde, c'est la corruption. Mais au sein de cette corruption, il doit y avoir le témoignage d'hommes et de femmes, même s'ils ne sont pas nombreux, qui ont le courage de proclamer la vérité, coûte que coûte. Et plus nous allons avancer, et plus ce sera difficile d'être fidèle à Dieu, plus ce sera difficile d'annoncer la couleur et de ne pas défaillir devant les attaques venant de la part de l'ennemi de notre âme, de la part du malin. Jéhojada a eu ce courage et il a défendu cette cause, la cause de Joas. Et il a même fait quelque chose. Par exemple, au verset 10, vous l'avez lu avec moi, il est dit « Le sacrificateur remit aux chefs de centaine des lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. » Ceci me fait penser que nous avons à notre disposition les armes spirituelles, non pas les armes charnelles. Et l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, rappelle d'ailleurs cela quand il dit que nous avons à notre disposition les armes spirituelles par le moyen desquelles nous pouvons renverser les murailles, les hauteurs et ce qui s'élève à l'encontre de la connaissance de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple timoré, en tous les cas, nous ne devrions pas avoir la mentalité d'un peuple timoré, mais nous devons avoir ce courage, parce que Dieu a mis à notre disposition ce qui était dès le commencement. C'est curieux, il est dit les lances et les boucliers qui provenaient du roi David, c'est-à-dire du commencement, n'est-ce pas, de cet établissement, de cette dynastie formidable. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit que Dieu avait fait une promesse à David et il lui avait dit « Jamais il ne manquera un successeur dépendant de cette dynastie-là sur le trône de Juda. » Et même dans cette période troublée, eh bien, Dieu a veillé pour que, justement, il y en ait un, Joas, qui soit mis à l'abri. Je dois vous dire, mes frères et sœurs, la vérité est souvent attaquée. Des fois, on se demande où elle peut se trouver. Il y a eu des périodes où, dans l'histoire de l'Église, c'était tellement la confusion qu'on pouvait se demander, mais où se trouve la vérité? Mais jamais Dieu n'a permis qu'elle soit complètement anéantie. Et il a toujours trouvé le moyen de trouver des hommes et des femmes qui ont maintenu le fil de la vérité et qui ont continué à proclamer cela. Plaise au Seigneur que nous fassions partie de cela, n'est-ce pas? Et ici, eh bien, nous nous rappelons, nous, il a mis à notre disposition quoi? Là, il y avait les lances, les boucliers. Nous savons bien ce que cela peut représenter. Nous avons l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, avec laquelle nous pouvons, eh bien, attaquer tout ce qui vient de la part de l'ennemi, atteindre le mensonge, renverser cela, pour établir ce que Dieu a établi au travers de l'Écriture. Et nous avons aussi le bouclier de la foi. Et combien nous pouvons être reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous ait accordé cela. C'est à notre disposition. Aujourd'hui, très sincèrement, je vous dis, frères et sœurs, je serais bien malheureux si je n'avais pas la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons plonger nos regards tous les jours pour y découvrir ce que le Seigneur nous révèle. Mais en même temps, ce bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Vous et moi, nous faisons l'expérience presque quotidienne de ces attaques qui viennent de la part du malin, qui voudraient nous décourager, qui voudraient nous mettre à terre. Mais une chose est certaine, c'est qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est vrai? En Christ, nous pouvons être plus que vainqueurs. Et ces armes-là, eh bien, étaient à la disposition de ceux qui étaient les défenseurs de ce petit Joas, jusqu'à ce moment particulier où est venu le temps qu'il sorte, disons, de cette cachette. Il est arrivé à l'âge de 7 ans, c'était comme un jubilé, n'est-ce pas? Et à l'âge de 7 ans, eh bien, la parole de Dieu dit que Jéhojada a eu le courage de parler au peuple et de montrer, ce verset, je l'aime beaucoup, il est dit, il leur montra le fils du roi. Il y a un moment donné où la révélation doit être faite. La révélation de qui est le Seigneur, de qui est notre roi. Parce que finalement, nous sommes justement établis dans ce règne formidable. Le royaume de Dieu est caché dans notre cœur et nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes la révélation de qui est Christ, non seulement le Sauveur, mais le Seigneur des Seigneurs, le Roi Tout-Puissant, devant lequel un jour tout genou fléchira et tout genou, eh bien, fléchissant, eh bien, permettra à la personne ainsi humiliée de rendre gloire à Dieu et de reconnaître celui qui est le Tout-Puissant. Mais en attendant, eh bien, il faut que nous soyons fidèles dans ce témoignage. Ce qui m'étonne dans ce texte, c'est qu'au moment où le roi a dit, voilà, non pas, pardon, pas le roi, mais Jéhojada, le sacrificateur, a dit, voilà le roi. Eh bien, il y a eu beaucoup de joie. Et il est apparu avec un diadème sur la tête, et puis il est dit aussi avec le témoignage. Vous savez que c'était une chose importante à ce moment-là pour le peuple de Dieu de fixer l'attention sur le roi couronné avec le témoignage, la loi de l'Éternel à ses côtés. Et pourquoi cette loi à ses côtés? Parce que selon ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome, quand un roi parvenait sur le trône, alors il est dit ceci, quand, c'est dans le livre du Deutéronome, « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. » C'était une loi. Il fallait donc que la parole de Dieu, ce qui était la parole de Dieu à cette époque, la loi et les prophètes, soit mis à la disposition du roi et qu'il plonge particulièrement les regards dans la loi pour savoir ce que Dieu attendait tous les jours. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, si le roi devait faire cela, eh bien, nous, à plus forte raison, devons-nous le faire tous les jours aussi. Regardez combien le malin déploie des efforts considérables pour nous empêcher d'avoir le temps de plonger nos regards dans la loi divine, mais pas la lire d'une manière superficielle ou comme accomplissant un devoir, mais passer du temps à méditer ce que Dieu nous enseigne afin de le serrer dans notre cœur. Si tous les jours cela est fait, eh bien, la parole de Dieu appliquée en nous par son esprit va nous rendre vainqueurs sur toutes les choses qui viennent de la part de ce monde et de la part de l'ennemi de notre âme. Et c'est par son esprit qu'il nous rend forts, forts et plus que vainqueurs lorsque nous nous nourrissons de l'Écriture sainte et que nous méditons la parole de Dieu. Et au moment où cela s'est fait, le peuple ne s'est pas trompé, il a reconnu le roi, il a été plongé dans une joie immense, il a acclamé le roi comme nous, nous pouvons le faire lorsque nous nous sommes rassemblés et que nous louons notre Seigneur, que nous louons notre Dieu. Et tandis qu'il y avait une partie du peuple qui se réjouissait en entendant les trompettes, en voyant le roi, en criant « Vive le roi !» Eh bien, Athalie, elle vivait cela d'une manière différente. Et regardez ce qu'il est dit. Par exemple, au verset 14, la dernière phrase du verset 14, elle dit, en déchirant ses vêtements, « Conspiration, conspiration !» Moi, je suis atterré. Vous voyez, dans ce que l'on pourrait dire le monde christianisé, dans la religiosité, il y a des hommes et des femmes qui, d'une manière authentique, d'une manière réelle, véritable, servent le Seigneur de tout leur cœur, se réjouissent en Christ, l'acclament et le glorifient. Mais en même temps, il y en a d'autres qui ont l'étiquette de chrétiens, qui ont l'étiquette religieuse, mais qui ne voit pas dans la restauration spirituelle une occasion de se réjouir, mais au contraire, ils appellent cela conspiration. C'est drôle ça. Quand finalement, Dieu suscite dans le cœur de certains un certain intérêt aussi pour la vérité, un certain intérêt pour l'action de l'esprit, un certain intérêt pour l'obéissance à la vérité. Il y en a d'autres qui, au contraire, trouvent peut-être à dire « Oh, c'est peut-être excessif, ce sont des fanatiques. » Là, dans notre marche, il faut un certain équilibre. Mais quel équilibre ? S'ils sont, tout en se proclamant chrétiens, victimes de passions, victimes de vices, et que tout en condamnant l'adultère, ils vivent dans l'adultère, que tout en condamnant les choses qui sont dans le monde et pratiquées dans le monde, ils pratiquent les mêmes choses. Comment peut-on dire que l'on est chrétien authentique et consacré quand pour la moindre petite chose, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, par exemple, se retrouver dans la communion fraternelle, méditer ensemble la parole de Dieu, prier ensemble, louer le Seigneur, lui rendre un culte, que tout cela passe d'un seul coup au second plan, parce qu'on a quelque chose d'autre qui nous paraît plus intéressant. Mais qu'est-ce que c'est qui peut être plus intéressant que de servir le Seigneur à la maison de l'Éternel? Je me demande. Certains se réjouissent et d'autres crient à ce moment-là, « Conspiration, conspiration, il y a une révolte !» Eh bien non, que le Seigneur nous aide à tenir ferme, car il nous faut aller jusqu'au bout, être fidèle jusqu'à ce jour formidable où Jésus paraîtra et nous pourrons alors de nos propres yeux le voir. Ah, mais le zèle qui doit nous animer doit être un zèle pur dans la grâce. Parce que c'est une chose importante d'être affermi dans la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien imposer aux autres. Nous ne pouvons rien faire car la chair n'a pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Mais si nous cherchons le Seigneur, alors l'Esprit de Dieu, lui, pourra convaincre. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Athalie, eh bien, malgré sa proclamation, elle n'a pas été suivie cette fois. Et elle a trouvé la mort. Vous savez, le jugement de Dieu atteint toujours tous ceux qui se détournent de Dieu. Vous savez, il est écrit et on ne pourra pas effacer cela de la Bible. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, un jour ou l'autre, on le récolte. Et cette femme a trouvé, eh bien, la moisson qu'elle méritait. Elle a trouvé le jugement qu'elle méritait. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, elle a terminé d'une façon tellement misérable. Cependant, il y a quand même quelque chose qui est à souligner ici. Il y a une différence entre ce jugement qui a été finalement exercé par Dieu au travers de ces instruments que nous avons eu l'occasion de citer pendant cette méditation, parce que ce que ne voulait pas Jéhojada, c'est que le sang soit versé dans la maison de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle il a donné un ordre et il a dit qu'elle soit sortie de ce lieu-là. Le sang doit couler à l'extérieur, mais non pas dans la maison de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle elle a pris le chemin des chevaux. Tandis que le roi, lui, pour venir justement sur le trône, il est arrivé par le chemin de la porte des coureurs. Je sens que vous vous posez la question, mais quel intérêt ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ben, je vais vous ramener à l'expérience de celui que j'ai cité au commencement, Jéhu. Jéhu qui avait un zèle excessif. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a fait couler le sang. Vous savez comment il a traité Jézabel ? Et comment il a, avec ses chevaux, piétiné le cadavre de Jézabel, le sang a rejailli sur les murailles. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est se réjouir au milieu de ce carnage épouvantable. Et il a mangé et bu avec ceux qui le suivaient. Mais Jéhojada n'est pas comme ça. Jehojada ne veut pas que ce soit dans la maison. Il ne se plaît pas dans le sang qui coule. Il se plaît au contraire dans la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle ne passe pas de pacte avec le mal. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à traiter le péché comme il faut, mais il faut faire une différence entre le péché et le pécheur. Et c'est la raison pour laquelle nous nous attaquons au mal, nous nous attaquons au péché, non pas au pécheur. Et Jéhoshada était animé de cet esprit-là. Et finalement, il a voulu qu'il y ait une alliance de traité entre le peuple et le roi, et puis finalement entre le peuple et le roi et l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout le peuple, non pas un seul individu comme au préalable Jéhu, mais tout le peuple qui animé du même esprit, en ayant le même amour pour la vérité, le même amour pour la loi de l'Éternel, eh bien, comme un seul corps s'est levé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont attaqués à qui? À l'autel de Baal, c'est-à-dire à l'idolâtrie. Et quand un peuple, une église, marche en relation étroite avec le Seigneur, animée par le Saint-Esprit, elle a la force de mettre dehors toute forme d'idolâtrie. Chacun d'entre nous, nous pouvons éliminer de notre vie l'idolâtrie. J'entends peut-être quelqu'un dire, mais frère Ferris, il y a longtemps que nous avons dépassé le stade de l'idolâtrie. Mon frère, ma sœur, quand je parle d'idolâtrie, je ne parle pas de prosternation devant une idole en plâtre, en or, en argent, en bois. Je parle de tout ce qui, dans notre vie, prend la place du Seigneur, occupe la première place, alors que le Seigneur est placé en second rang, si ce n'est au dernier rang. Réfléchissez. Quand tu choisis dans ta vie quelque chose qui n'a rien à voir avec la vérité de Dieu et que cela passe avant la communion fraternelle, avant la relation avec Dieu, avant le culte, avant l'heure de prière, ça veut dire qu'il y a dans ton cœur déjà un travail qui est fait par l'ennemi, sans que tu t'en rendes compte. Quelque chose prend la première place, occupe de nombreux moments de ton existence et de ta journée, alors que même dans de nombreuses occupations, le Seigneur devrait toujours avoir la première place. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne veux bien sûr blesser personne, ni atteindre personne d'une manière sentimentale ou humaine, mais je vous place en face de la vérité de Dieu qui me concerne également. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, aide-nous à ce que nous puissions toujours, toujours avoir les regards fixés sur toi, veiller à ce que la vérité ne soit pas attaquée sans que nous n'ayons aucune réaction, et en même temps, aide-nous à être patients et à t'attendre tous les jours, comme Jéhojada et cette femme qui avait mis Joas à l'abri dans le temple. Nous aussi, nous devons être patients. Le temps peut nous sembler long, mais nous devons être patients, mais attendre dans la plénitude de la foi, parce que, après tout, j'ai envie de terminer avec cela, même si cela nous semble long. Écoutez, mes frères et sœurs, je crois que Jésus est à la porte. Il ne va pas tarder. Alors, soyons fidèles et ne nous laissons pas avoir par le malin. Que Dieu vous bénisse et nous aide à nous soumettre à la parole du Seigneur.